Chapitre 14. Mère et fils. Omsk est la capitale officielle de la Sibérie occidentale. Ce n'est pas la ville la plus importante du gouvernement de ce nom, puisque Tomsk est plus peuplée et plus considérable, mais c'est à Omsk que réside le gouverneur général de cette première moitié de la Russie asiatique. Omsk, à proprement parler, se compose de deux villes distinctes, l'une qui est uniquement habitée par les autorités et les fonctionnaires, l'autre où demeurent plus spécialement les marchands sibériens, bien qu'elle soit peu commerçante cependant. Cette ville compte environ 12 à 13 000 habitants. Elle est défendue par une enceinte flanquée de bastions, mais ses fortifications sont en terre et elle ne pouvait la protéger que très insuffisamment. Aussi les Tartares, qui le savaient bien, tentèrent-ils à cette époque de l'enlever de vive force et ils y réussirent après quelques jours d'investissement. La garnison d'Omsk, réduite à 2000 hommes, avait vaillamment résisté. Mais accablée par les troupes de l'émir, repoussée peu à peu de la ville marchande, elle avait dû se réfugier dans la ville haute. C'est là que le gouverneur général, ses officiers, ses soldats s'étaient retranchés. Ils avaient fait du haut quartier d'Omsk une sorte de citadelle, après en avoir crénelé les maisons et les églises, et jusqu'alors, ils tenaient bon dans cette sorte de Kremlin improvisé, sans grand espoir d'être secourus à temps. En effet, les troupes tartares qui descendaient le cours de l'Irtych recevaient chaque jour de nouveaux renforts, et circonstances plus graves, elles étaient alors dirigées par un officier, traître à son pays, mais homme de grand mérite et d'une audace à toute épreuve. C'était le colonel Ivan Ogareff. Ivan Ogareff, terrible comme un de ses chefs tartares qu'il poussait en avant, était un militaire instruit. Ayant en lui un peu de sang mongol par sa mère, qui était d'origine asiatique, il aimait la ruse, il se plaignait à imaginer des embûches et ne répugnait à aucun moyen lorsqu'il voulait surprendre quelque secret ou tendre quelque piège. Fourbe par nature, il avait volontiers recours au plus vil déguisement, se faisant mendiant à l'occasion, excellent à prendre toutes les formes et toutes les allures. De plus, il était cruel, et il se fut fait bourreau au besoin. Féofar Khan avait en lui un lieutenant digne de le seconder dans cette guerre sauvage. Or, quand Michel Strogoff arriva sur les bords de l'Irtych, Ivan Ogareff était déjà maître d'Omsk, et il pressait d'autant plus le siège du haut quartier de la ville qu'il avait hâte de rejoindre Tomsk, où le gros de l'armée tartare venait de se concentrer. Tomsk, en effet, avait été prise par Féofar Khan depuis quelques jours, et c'est de là que les envahisseurs, maîtres de la Sibérie centrale, devaient marcher sur Irkoutsk. Irkoutsk était le véritable objectif d'Ivan Ogareff. Le plan de ce traître était de se faire agréer du grand-duc sous un faux nom, de capter sa confiance et, l'heure venue, de livrer aux Tartares la ville et le grand-duc lui-même. Avec une telle ville et un tel otage, toute la Sibérie asiatique devait tomber aux mains de ses envahisseurs. Or, on le sait, ce complot était connu du tsar, et c'était pour le déjouer qu'avait été confiée à Michel Strogoff l'importante missive dont il était porteur. De là aussi les instructions les plus sévères qui avaient été données au jeune courrier de passer incognito à travers la contrée envahie. Cette mission, il l'avait fidèlement exécutée jusqu'ici, mais maintenant, pourrait-il en poursuivre l'accomplissement? Le coup qui avait frappé Michel Strogoff n'était pas mortel. En nageant de manière à éviter d'être vu, il avait atteint la rive droite, où il tomba évanoui entre les roseaux. Quand il revint à lui, il se trouva dans la cabane d'un moujik qu'il avait recueilli et soigné et auquel il devait d'être encore vivant. Depuis combien de temps était-il l'hôte de ce brave Sibérien? Il n'eut pu le dire. Mais lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit une bonne figure barbue penchée sur lui qui le regardait d'un œil compatissant. Il allait demander où il était lorsque le moujik, le prévenant, lui dit « Ne parle pas, petit père, ne parle pas, tu es encore trop faible. Je vais te dire où tu es et tout ce qui s'est passé depuis que je t'ai rapporté dans ma cabane. » Et le moujik raconta à Michel Strogoff les divers incidents de la lutte dont il avait été témoin. L'attaque du bac par les barques tartares, le pillage des Tarantas, le massacre des bateliers. Mais Michel Strogoff ne l'écoutait plus, et portant la main à son vêtement, il sentit la lettre impériale, toujours serrée sur sa poitrine. Il respira, mais ce n'était pas tout. « Une jeune fille m'accompagnait, » dit-il. « Ils ne l'ont pas tuée, » répondit le moudjik, allant au-devant de l'inquiétude qu'il lisait dans les yeux de son hôte. « Ils l'ont emmenée dans leur barque et ils ont continué de descendre l'Irtitch. C'est une prisonnière de plus à joindre à tant d'autres que l'on conduit à Tomsk. » Michel Strogoff ne put répondre. Il mit la main sur son cœur pour en comprimer les battements. Mais malgré tant d'épreuves, le sentiment du devoir dominait son âme tout entière. « Où suis-je ? » demanda-t-il. « Sur la rive droite de l'Irtitch, et seulement à 5 verstes d'Omsk, » répondit le moudjik. « Quelle blessure ai-je donc reçue qui ait pu me foudroyer ainsi ? Ce n'est pas un coup de feu ?»«
Non, un coup de lance à la tête, cicatrisé maintenant, » répondit le moudjik. « Après quelques jours de repos, petit père, tu pourras continuer ta route. » Tu es tombé dans le fleuve, mais les Tartares ne t'ont ni touché ni fouillé, et ta bourse est toujours dans ta poche. »
Michel Strogoff tendit la main au moudjik, puis se redressant par un subit effort, « Ami, dit-il, depuis combien de temps suis-je dans ta cabane ?»«
Depuis 3 jours. »«
3 jours perdus. »«
3 jours pendant lesquels tu as été sans connaissance. »«
As-tu un cheval à me vendre ?
Tu veux partir ?
À l'instant.
Je n'ai ni cheval ni voiture, petit père. Où les Tartares ont passé, il ne reste plus rien.
Eh bien, j'irai à pied à Omsk chercher un cheval.
Quelques heures de repos encore et tu seras mieux en état de continuer ton voyage.
Pas une heure.
Viens donc, répondit le moudjik, comprenant qu'il n'y avait pas à lutter contre la volonté de son hôte. Je te conduirai moi-même, ajouta-t-il. D'ailleurs, les Russes sont encore en grand nombre à Omsk, et tu pourras peut-être passer inaperçu.
« Ami, répondit Michel Strogoff, que le ciel te récompense de tout ce que tu as fait pour moi. »«
Une récompense, les fous seuls en attendent sur la terre, » répondit le moujik.
Michel Strogoff sortit de la cabane. Lorsqu'il voulut marcher, il fut pris d'un éblouissement tel que sans le secours du moujik, il serait tombé, mais le grand air le remit promptement. Il ressentit alors le coup qui lui avait été porté à la tête et dont son bonnet de fourrure avait heureusement amorti la violence. Avec l'énergie qu'on lui connaît, il n'était pas homme à se laisser abattre pour si peu. Un seul but se dressait devant ses yeux, c'était cette lointaine Irkoutsk qu'il lui fallait atteindre. Mais il lui fallait traverser Omsk sans s'y arrêter. « Dieu protège ma mère et Nadia, » murmura-t-il. « Je n'ai pas encore le droit de penser à elle. » Michel Strogoff et le moujik arrivèrent bientôt au quartier marchand de la ville basse, et bien qu'elle fût occupée militairement, ils y entrèrent sans difficulté. L'enceinte de terre avait été détruite en maint endroit, et c'était autant de brèches par lesquelles pénétraient ces maraudeurs qui suivaient les armées de Féofarkhan. À l'intérieur d'Omsk, dans les rues, sur les places, fourmillaient les soldats tartares, mais on pouvait remarquer qu'une main de fer leur imposait une discipline à laquelle ils étaient peu accoutumés. En effet, ils ne marchaient point isolément, mais par groupes armés, en mesure de se défendre contre toute agression. Sur la grande place, transformée en camp que gardaient de nombreuses sentinelles, 2000 Tartares bivouaquaient en bon ordre. Les chevaux, attachés à des piquets, mais toujours harnachés, étaient prêts à partir au premier ordre. Omsk ne pouvait être qu'une halte provisoire pour cette cavalerie tartare qui devait lui préférer les riches plaines de la Sibérie orientale, là où les villes sont plus opulentes, les campagnes plus fertiles et par conséquent le pillage plus fructueux. Au-dessus de la ville marchande s'étageait le haut quartier qui Vanogareff, malgré plusieurs assauts vigoureusement donnés mais bravement repoussés, n'avait encore pu réduire. Sur ses murailles crénelées flottait le drapeau national aux couleurs de la Russie. Ce ne fut pas sans un légitime orgueil que Michel Strogoff et son guide le saluèrent de leurs vœux. Michel Strogoff connaissait parfaitement la ville d'Omsk, et tout en suivant son guide, il évita les rues trop fréquentées. Ce n'était pas qu'il pût craindre d'être reconnu. Dans cette ville, sa vieille mère seule aurait pu l'appeler de son vrai nom, mais il avait juré de ne pas la voir, et il ne la verrait pas. D'ailleurs, il le souhaitait de tout cœur. Peut-être avait-elle fui dans quelque portion tranquille de la steppe. le moujik, très heureusement, connaissait un maître de poste qui, en le payant bien, ne refuserait pas, suivant lui, soit de louer, soit de vendre voiture ou chevaux. Resterait la difficulté de quitter la ville, mais les brèches pratiquées à l'enceinte devaient faciliter la sortie de Michel Strogoff. Le moujik conduisait donc son hôte directement au relais, lorsque dans une rue étroite, Michel Strogoff s'arrêta soudain et se rejeta derrière un pan de mur. « Qu'as-tu ? » lui demanda vivement le moujik, très étonné de ce brusque mouvement. « Silence !» se hâta de répondre Michel Strogoff en mettant un doigt sur les lèvres. En ce moment, un détachement de Tartares débouchait de la place principale et prenait la rue que Michel Strogoff et son compagnon venaient de suivre pendant quelques instants. En tête du détachement, composé d'une vingtaine de cavaliers, marchait un officier vêtu d'un uniforme très simple. Bien que ses regards se portassent rapidement de côté et d'autre, il ne pouvait avoir vu Michel Strogoff qui avait précipitamment opéré sa retraite. Le détachement allait au grand trot dans cette rue étroite. Ni l'officier ni son escorte ne prenaient garde aux habitants. Ces malheureux avaient à peine le temps de se ranger à leur passage. Aussi eut-il quelques cris à demi étouffés, auxquels répondirent immédiatement des coups de lance, et la rue fut dégagée en un instant. Quand l'escorte eut disparu, « Quel est cet officier ?» demanda Michel Strogoff en se retournant vers le moujik. Et pendant qu'il faisait cette question, son visage était pâle comme celui d'un mort.
« C'est Ivan Ogareff !» répondit le Sibérien, mais d'une voix basse qui respirait la haine.
« Lui !» s'écria Michel Strogoff, auquel ce mot échappa avec un accent de rage qu'il ne put maîtriser. Il venait de reconnaître dans cet officier le voyageur qui l'avait frappé au relais d'Ishim. Et fût-ce une illumination de son esprit, ce voyageur, bien qu'il n'eût fait que l'entrevoir, lui rappela en même temps le vieux tzigane dont il avait surpris les paroles au marché de Nijni Novgorod. Michel Strogoff ne se trompait pas. Ces deux hommes n'en faisaient qu'un. C'était sous le vêtement d'un tzigane, mêlé à la troupe de Sangaré, qu'Ivan Ogareff avait pu quitter la province de Nijni Novgorod, où il était allé chercher, parmi les étrangers si nombreux que la foire avait amenés de l'Asie centrale, les affidés qu'il voulait associer à l'accomplissement de son œuvre maudite. Sangaré et ses tziganes, véritables espions à sa solde, lui étaient absolument dévoués. C'était lui qui, pendant la nuit sur le champ de foire, avait prononcé cette phrase singulière dont Michel Strogoff pouvait maintenant comprendre le sens. C'était lui qui voyageait à bord du Kankaz avec toute la bande bohémienne. C'était lui qui, par cette autre route de Kazan à Ishim à travers l'Oural, avait gagné Omsk, où maintenant il commandait en maître. Il y avait à peine 3 jours qu'Ivan Ogareff était arrivé à Omsk, et sans leur funeste rencontre à Ishim, sans l'événement qui venait de le retenir 3 jours sur les bords de l'Irtitch, Michel Strogoff l'eût évidemment devancé sur la route d'Irkoutsk. Et qui sait combien de malheurs eussent été d'éviter dans l'avenir. En tout cas, et plus que jamais, Michel Strogoff devait fuir Ivan Ogareff et faire en sorte de ne point en être vu. Lorsque le moment serait venu de se rencontrer avec lui face à face, il saurait le retrouver, fut-il maître de la Sibérie tout entière. Le moujik et lui reprirent donc leur course à travers la ville, et ils arrivèrent à la maison de poste. Quitter Omsk par une des brèches de l'enceinte ne serait pas difficile la nuit venue. Quant à racheter une voiture pour remplacer le Tarantas, ce fut impossible. Il n'y en avait ni à louer, ni à vendre. Mais quel besoin Michel Strogoff avait-il d'une voiture maintenant? N'était-il pas seul, hélas, à voyager? Un cheval devait lui suffire, et très heureusement ce cheval, il put se le procurer. C'était un animal de fond, apte à supporter de longues fatigues, et dont Michel Strogoff, habile cavalier, pourrait tirer un bon parti. Le cheval fut payé un haut prix, et quelques minutes plus tard, il était prêt à partir. Il était alors 4 heures du soir.
Michel Strogoff, obligé d'attendre la nuit pour franchir l'enceinte mais ne voulant pas se montrer dans les rues d'Omsk, resta dans la maison de poste. Et là, il se fit servir quelque nourriture. Il y avait grande affluence dans la salle commune. Ainsi que cela se passait dans les gares russes, les habitants, très anxieux, venaient y chercher des nouvelles. On parlait de l'arrivée prochaine d'un corps de troupes moscovites, non pas à Omsk, mais à Tomsk, corps destiné à reprendre cette ville sur les Tartares de Féofarkhan. Michel Strogoff prêtait une oreille attentive à tout ce qui se disait, mais il ne se mêlait point aux conversations. Tout à coup, un cri le fit tressaillir, un cri qui le pénétra jusqu'au fond de l'âme, et ces deux mots furent, pour ainsi dire, jetés à son oreille. « Mon fils !» Sa mère, la vieille Marfa, était devant lui. Elle lui souriait, toute tremblante, elle lui tendait les bras. Michel Strogoff se leva, il allait s'élancer. La pensée du devoir, le danger sérieux qu'il y avait pour sa mère et pour lui dans cette regrettable rencontre, l'arrêtèrent soudain, et tel fut son empire sur lui-même que pas un muscle de sa figure ne remua. 20 personnes étaient réunies dans la salle commune. Parmi elles, il y avait peut-être des espions, et ne savait-on pas dans la ville que le fils de Marfa Strogoff appartenait au corps des courriers du tsar ? Michel Strogoff ne bougea pas. « Michel !» s'écria sa mère. « Qui êtes-vous, ma brave dame ?» demanda Michel Strogoff, balbutiant ces mots plutôt qu'il ne les prononça. « Qui je suis ? Tu le demandes ? Mon enfant, est-ce que tu ne reconnais plus ta mère ?»« Vous vous trompez, » répondit froidement Michel Strogoff. « Une ressemblance vous abuse. » La vieille Marfa alla droit à lui, et là, les yeux dans les yeux. « Tu n'es pas le fils de Pierre et de Marfa Strogoff ?» dit-elle. Michel Strogoff aurait donné sa vie pour pouvoir serrer librement sa mère dans ses bras. Mais s'il cédait, c'en était fait de lui, d'elle, de sa mission, de son serment. Se dominant tout entier, il ferma les yeux pour ne pas voir les inexprimables angoisses qui contractaient le visage vénéré de sa mère. Il retira ses mains pour ne pas étreindre la main frémissante qui le cherchait. « Je ne sais en vérité ce que vous voulez dire, ma bonne femme, » répondit-il en reculant de quelques pas. « Michel !» cria encore la vieille mère. « Je ne me nomme pas Michel, je n'ai jamais été votre fils. Je suis Nicolas Korpanov, marchand à Irkoutsk. » Et brusquement, il quitta la salle commune pendant que ces mots retentissaient une dernière fois. « Mon fils, mon fils !» Michel Strogoff, à bout d'effort, était parti. Il ne vit pas sa vieille mère qui était retombée presque inanimée sur un banc. Mais au moment où le maître de poste se précipitait pour la secourir, la vieille femme se releva. Une révélation subite s'était faite dans son esprit. Elle, reniée par son fils, ce n'était pas possible. Quant à s'être trompée et à prendre un autre pour lui, impossible également. C'était bien son fils qu'elle venait de voir. Et s'il ne l'avait pas reconnu, c'est qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne devait pas le reconnaître. C'est qu'il avait des raisons terribles pour en agir ainsi. Et alors, refoulant en elle ses sentiments de mère, elle n'eut plus qu'une pensée. L'aurais-je perdu sans le vouloir ? « Je suis folle, » dit-elle à ceux qui l'interrogeaient. « Mes yeux m'ont trompée. Ce jeune homme n'est pas mon enfant, il n'avait pas sa voix. N'y pensons plus, je finirai par le voir partout. » Moins de 10 minutes après, un officier tartare se présentait à la maison de poste. « Marfa Strogoff » demanda-t-il. « C'est moi, » répondit la vieille femme d'un ton si calme et le visage si tranquille que les témoins de la rencontre qui venaient de se produire ne l'auraient pas reconnu. « Viens !» dit l'officier. Marfa Strogoff, d'un pas assuré, suivit l'officier tartare et quitta la maison de poste. Quelques instants après, Marfa Strogoff se trouvait au bivouac de la Grand Place en présence d'Ivan Ogareff, auquel tous les détails de cette scène avaient été rapportés immédiatement. Ivan Ogareff, soupçonnant la vérité, avait voulu interroger lui-même la vieille sibérienne. Ton nom ? demanda-t-il d'un ton rude.
Marfa Strogoff.
Tu as un fils ?
Oui.
Il est courrier du tsar ?
Oui.
Où est-il ?
À Moscou.
Tu es sans nouvelles de lui ?
Sans nouvelles.
Depuis combien de temps ?
Depuis 2 mois.
Quel est donc ce jeune homme que tu appelais ton fils il y a quelques instants au relais de poste ?
Un jeune Sibérien que j'ai pris pour lui, répondit Marfa Strogoff.
C'est le 10e en qui je crois retrouver mon fils depuis que la ville est pleine d'étrangers. Je crois le voir partout.
Ainsi, ce jeune homme n'était pas Michel Strogoff.
Ce n'était pas Michel Strogoff. Sais-tu, vieille femme, que je puis te faire torturer jusqu'à ce que tu avoues la vérité ?
J'ai dit la vérité, et la torture ne me fera rien changer à mes paroles.
Ce Sibérien n'était pas Michel Strogoff ?
Demanda une seconde fois Ivan Ogareff.
Non, ce n'était pas lui, répondit une seconde fois Marfa Strogoff.
Croyez-vous que pour rien au monde, je renierais un fils comme celui que Dieu m'a donné ?
Ivan Ogareff regarda d'un œil méchant la vieille femme qui le bravait en face. Il ne doutait pas qu'elle n'eût reconnu son fils dans ce jeune Sibérien. Or, si ce fils avait d'abord renié sa mère, et si sa mère le reniait à son tour, ce ne pouvait être que par un motif des plus graves. Donc, pour Ivan Ogareff, il n'était plus douteux que le prétendu Nicolas Korpanov ne fût Michel Strogoff, courrier du tsar, se cachant sous un faux nom, et chargé de quelques missions qu'il eût été capital pour lui de connaître. Aussi donna-t-il immédiatement ordre de se mettre à sa poursuite. Puis, « Que cette femme soit dirigée sur Tomsk !» dit-il en se retournant vers Marfa Strogoff. Et pendant que les soldats l'entraînaient avec brutalité, il ajouta entre ses dents, « Quand le moment sera venu, je saurai bien la faire parler, cette vieille sorcière !»